Ce chour est dédié pour la réfoua shlema de
Yaakov
ben Baka
ben
Mesrod. Alors la question de Monsieur Alouche.
Oui, on voit dans la paracha de semaine, ça fait des années que je pense à ça. Voilà, Yaakov Avinu, il a serré ses petits-enfants, qui vont devenir ses enfants, contre lui. D'accord ? Ils ont un match, c'est mes forages. Il les a serrés, il les a embrassés, il les a serrés contre lui. Nous, si on veut, on a tellement envie de se rapprocher. De même qu'à Yaakov Avinu, il a serré ses petits-enfants. On a besoin d'un contact physique, ça veut dire entre guillemets. Qu'est-ce qui peut, voilà, c'est ma question, qu'est-ce qui peut ressembler au fait que nous aussi, des fois, on a envie de...
d'être en relation physique avec Hachem.
Ouais. Et que nous aussi, on a besoin. Yaakov Avinu, il a serré ses enfants contre lui. Et nous, comment on fait?
Est-ce que les dédoniers de notre génération, est-ce qu'ils peuvent avoir une proximité avec Hachem telle qu'ils peuvent être aussi en contact presque physique avec eux, avec lui ou non?
Entre un contact physique, non, parce que Dieu n'a pas de physique.
Ils sentent vraiment Hachem.
Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus.
On sent.
Bien sûr.
Mais
on aimerait physique.
Dieu
n'est pas physique.
Dieu n'est pas physique. Et pourtant, il nous a donné.
Mais néanmoins, il nous a ordonné de l'aimer. Et cet amour, comme dit le Rambam à la fin du Chot Shuvah, il est plus grand que celui qu'a un homme pour une femme à laquelle il pense sans cesse, quand il dort, quand il se lève, quand il boit, quand il mange. Donc on peut arriver à des niveaux d'amour extraordinaires où la perception de Dieu est très puissante. Mais le contact physique vraiment, c'est impossible. Il y a des notions pareilles qui parlent de l'union avec Dieu qui aura à l'époque messianique. À l'époque messianique, c'est écrit, lorsque Dieu va s'unir avec son peuple, ça sera comme un lion et une lionne, que les goïms essayent de nous empêcher de nous unir avec Dieu. À quoi ça ressemble celui qui met la main entre un lion et une lionne en train de s'accoupler? Ça va être terrible, d'accord? Donc, Chazal parle d'une relation pareille. Alors, j'espère qu'on va vivre ça très très bientôt. D'ailleurs, on m'a dit aujourd'hui que ça commence à... On m'a dit que le pétrole, le prix du baril, il a beaucoup baissé. Il y a une guerre entre l'OPEC et les États-Unis. C'était à 110 dollars, ça descend de 70, ça descend à 40. L'Iran est à l'agonie, la Russie aussi. Les choses n'avancent pas, Tachem.
Bezrat
Hashem, Bezrat Hashem. On espère. On espère qu'on est proche de la fin. Et là, il y aura une relation avec Hachem extrêmement palpable maintenant. C'est de quoi palpable? Encore une fois, ce n'est pas qu'on va pouvoir toucher physiquement, mais le côté physique chez nous sera tellement peu important. Quand quelqu'un a un très grand idéal, prenons un exemple tout à fait pas adéquat, un homme d'affaires. Mais il fait maintenant des affaires, mais l'affaire du siècle, d'accord. Il arrive au bureau à 7 heures. Ça se peut que jusqu'à 7h du soir, il n'a pas bu un café. Il a bu un café, c'est tout. Et pourtant, il aime bien manger. Il est tellement pris que son corps n'est plus... Heureusement que Dieu a créé la faim. Sinon, tous les gens passionnés, surtout ceux de Torah, ils ne mangeraient plus. Ils mourraient. Dieu a fait qu'au bout d'un moment, la faim, elle crie. D'accord? Tu es obligé de faire attention à ton corps. Mais dans une époque où on sera tellement branché avec Hachem que le corps n'aura plus aucune importance. Donc on ne pourra pas physiquement toucher Dieu, on n'aura plus envie, plus besoin, parce que la relation avec Dieu sera tellement puissante. Par d'autres biais, on a le Neshama. À Kippour, il y a des moments où les gens ils peuvent sentir Dieu très très fort. Vous êtes en Israël maintenant, vous sentez des choses, n'est-ce pas? Et quand vous dites, je suis allé à Ramoth, écoute-moi mon cher ami, il n'y a aucune lumière, de quelle lumière tu parles, d'accord? C'est pas lumineux, c'est tout déjà habillé en noir, des bâtiments, voilà, d'accord? De quoi tu parles? Alors, il parle du corps, vous parlez de l'âme. Donc, il y a une sensibilité de l'âme, les gens ressentent. Ça, c'est une chose qui se développe. À d'autres niveaux, plus on rentre dans la Ktoucha, plus on devient sensible à notre âme, donc plus on devient sensible au message divin. Les grands d'Israël, il y avait un grand admor qui a dit: je sens Dieu sur le bout de mes ongles, je sens plus que tout. On m'a dit que l'Admor Hazaken disait que partout, tout ce qu'il voyait, c'était que le nom de Dieu partout, parce que tout ce sont des manifestations du nom de Dieu. Ça, quelqu'un qui se sanctifie beaucoup, au bout d'un moment, le corps n'a plus aucun. Rabbi Chaim Kanevski, hein, le grand de la génération, chaque fois qu'il essaie de manger, il demandait à sa femme: qu'est-ce que j'ai mangé? Quel bracha je dois faire? Il vient de manger, le type. Il ne fait pas attention, il n'est pas là, il mange. Mais quel bracha je dois faire? À sa femme, chaque fois. Bon, c'est pas nous, hein. Nous, on connaît, avant le repas, qu'est-ce qu'on mange? Et après, passe un peu de sel, passe un peu de poivre. D'accord? Et le plat, la tête dans le plat, d'accord? Tout l'être humain dans son assiette. Il y en a qui ont développé l'âme, ils n'ont plus besoin de ça. Alors nous, à notre niveau, on doit commencer lentement à se détacher des plaisirs physiques. Et oh, c'est combien difficile. Oh, combien difficile. Oh, combien difficile. Et se brancher à d'autres plaisirs qui sont bien plus grands, bien plus vrais, d'une amplitude éternelle, d'accord, d'un impact infini. C'est très grand. Et ça reste encore caché parce qu'on est dans les corps. Et ce que nous avons comme éclairage de notre âme, elle n'est pas en nous, elle est là-haut. On reçoit un petit faisceau d'éclairage qui vient de notre âme, qu'on appelle l'âme. Il y a trois parties, nefesh, ruach, neshama. La neshama, elle n'est pas en nous. Bien qu'on en parle, parce que ce qu'il y a en nous, c'est un petit éclairage qui vient, un petit faisceau. Quand ma chair viendra, il y aura un éclairage énorme. Je sais, après du Mashiach, je ne sais pas si c'est pour nous aussi, mais après du Mashiach, c'est-à-dire que chez lui va se dévoiler la Yechida du Mashiach. Yechida, on a cinq niveaux d'âme. Nefesh, ruach, neshama, Yechida. Yechida, c'est le plus haut niveau. Très très haut, qui va descendre d'un endroit qui se trouve dans le paradis qui s'appelle Kansipor, qui descend dans cet homme-là qui est destiné à devenir Mashiach, à un moment il devient investi de pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y aura une proximité de Dieu, une sensation de la divinité extrêmement grande. Et Mashiach, il est là pour faire monter toute l'humanité. Donc nous tous, on va commencer à ressentir cela. C'est marqué dans le prophète Amos qu'il y aura la prophétie qui va... Dieu va dire, je vais donner la prophétie à vos enfants, d'accord ? Les jeunes gens, les jeunes filles vont commencer à prophétiser. C'est quoi prophétiser ? C'est pas dire, je vois ce qu'il y aura dans le futur. En relation avec Hachem, Dieu me parle, on entend. Donc, c'est très très puissant. On ne sera plus du tout, le corps, ça sera rien. Une chaussure, la semelle de notre chaussure. Bon, alors elle existe. Mais est-ce que je pense toute la journée à ma semelle de ma chaussure, sur quoi j'ai marché, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, écoute, laisse ta semelle tranquille, on est autre part. Aujourd'hui, nous vivons au niveau de la semelle. C'est dans le secret, c'est pour ça que Dieu, quand il a vu Moïse, il lui a dit, enlève tes chaussures. Théo, t'es beaucoup plus haut que ça. Ces sept parachas, on voit que, c'est ce qu'on vient de voir maintenant, Vaïgash, on voit que Dieu se dévoile à Yaakov, Yaakov, c'est Abraham. Entre les deux noms, il y a toujours une barre. Passique, c'est quoi? C'est un arrêt. Pour dire que même au niveau tellement grand qu'ils étaient Abraham et Yaakov Avinu, c'est des niveaux impossibles, d'accord? Il y avait quand même, entre leur âme et eux-mêmes, il y avait encore un écran. Moshe Rabbeinu, c'est le seul que Dieu l'appelle Moshe, il n'y a pas de passique. Passique, c'est sec, un arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, pas d'écran entre les deux. Il arrivait à un niveau sans chaussures. Il était complètement... Chazal dit moitié ange, moitié homme. Il arrivait à un niveau, il était un homme, mais un niveau où il peut aller 3 fois 40 jours de suite sans manger, sans boire, être avec Dieu. C'est pas donné même au Avot, même à Abraham et Yaakov, non, pas eu ce niveau-là. Donc quand Mashiach reviendra, Mashiach c'est Moshe Rabbeinu, d'accord? C'est une partie de lui aussi qui revient. David Amel a beaucoup d'âmes qui reviennent en lui. Toute l'humanité va monter et on sera dans une relation avec Hachem énorme. Je crois que Yom Kippour sera le... Ce qu'on vit aujourd'hui à Yom Kippour, ça sera le plus petit niveau possible imaginable qu'il y aura à cette époque-là. On va monter, zip. C'est marqué Tekef le Geulat Fila. C'est une halakha, une loi. Dès qu'on fait Baruch Hashem Gaal Israël, la Geoula, Baruch la Geoula, Baruch Hashem Gaal, il faut commencer l'Amida immédiatement. Immédiatement après la Geoula, Tfila. Alors c'est une halakha, mais ça veut dire aussi grand chose. J'imagine que ça veut dire aussi dès que vient la Geoula, on est en situation de Tfila. Tfila signifie c'est la relation avec Hashem. Quand je suis en relation avec Hachem, quand j'étudie, ok, je suis en relation avec sa Torah. Quand je fais les mitzvot, je suis comme un serviteur qui fait ce qu'il veut. Mais quand je suis en relation sentimentale, dans la Gemara, on appelle la prière Rahamim. Rahamim signifie aussi en araméen amour. C'est ça, la relation sentimentale, elle est dans la prière. Dès que Melgi ou là, immédiatement, prière. On sera en situation de union avec Hachem, palpable, Bezrat Hachem.
Est-ce que c'est vrai que Moshe Rabbeinu, en vérité, il a dû beaucoup travailler sur lui.
80 ans.
Parce qu'en vérité,
t'es très...
il y a un roi. C'est ça.
Ouais, il a vu une image de lui.
On a entendu ça. Ouais, donc, il allait peindre le visage de Moshe Rabbeinu. Ouais. Et il connaissait.
C'est un truand.
C'est pas possible, c'est un genou, Moshe Rabbeinu. Voilà. Il décrit des. Donc c'est vrai, c'est ça.
Ouais, absolument.
Il décrit des. Donc il a beaucoup travaillé sur lui. Alors,
ça me donne une chose dernièrement. Combien de temps? La première fois où Dieu se dévoile, Moshe Rabbeinu, c'est après 80 ans de travail. 80 ans. Dans dans le désert. Il a fui, il avait 18 ans, quelque chose comme ça,
c'est,
il y a
3
ans.
Ça donne le moral.
Ça. Ouais, ouais, bien sûr.
52 ans, mon prochain, je veux dire, j'ai...
Deux fois le nom de Dieu, extraordinaire.
Parce que nous, on vit vraiment en PML.
Ah, je vous plains tout mon cœur.
Et quand vous dites, et vous avez dit récemment, vous allez dire, le PML, on lève les yeux, on voit le ciel d'Israël, et on va descendre.
Ah, c'est bon ça.
Et cette lumière, on se lève le matin,
extraordinaire.
C'est un encart.
Ah, je peux avoir chez moi là.
Il fait et nous, on est...
Vous bénissez M. Alouche l'année prochaine ici avec toute votre famille, avec une bonne parole à ça. Voilà,
amen.
Vos parents, tout le monde doit faire chez moi. Voilà.
Je vais faire
venir beaucoup, là. Ah ouais, mais comment c'est possible? Avec tout ce qu'on pourrait reprocher contre la Sorte-Noute, c'est quand même un grand travail qu'elle fait que de faire venir des juifs, de leur donner de l'argent, de les aider. Et pourtant, comme vous avez dit tout à l'heure, on a de la glu dans le derrière. Et on n'arrive pas à se décoller de notre siège. Mmh. Alors qu'on devrait venir ici. Et comment imaginer un plan de bataille pour quitter notre galou, parce qu'on est vraiment en galou où on est.
Ouais, d'abord, il faut définir est-ce que c'est vraiment une mitzvah pour tout le monde venir en Israël. C'est clair que c'est une mitzvah. Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Idéalement, chaque juif, sa place est en Israël. Maintenant, il y a 2000 ans, déjà dans la Torah, Dieu nous dit, vous avez mal vous comporter, je vous chasserai de cette terre. Et nous a chassés deux fois. Premier exil, deuxième exil. Maintenant, il est clair que, dès avant, pendant et après la Shoah, c'est un mouvement de retour qui s'établit et que le vent est dans la direction du retour en terre d'Israël. Le monde de la Torah, qui était en Europe, en Afrique du Nord, aujourd'hui en Amérique, aujourd'hui il est revenu et il est en terre d'Israël. C'est clair, donc il y a un mouvement de retour. Donc, est-ce que tout le monde doit venir immédiatement en Israël? Oui, idéalement. Mais entre l'idéal et le réel, il y a un grand fossé. Et si quelqu'un va croire qu'il est réellement dans l'idéal, alors qu'il n'y est pas, d'accord, ben il va se casser les dents. Quelqu'un qui va monter en Israël, il a une famille à nourrir, il n'a pas de parnassa, il ne parle pas la langue, il ne connaît pas la difficulté dure du pays d'Israël. Il a de fortes chances de repartir 2-3 ans après, aigri, malheureux, retour à la case départ. Alors, il n'y a pas de réponse claire à votre question. C'est clair qu'il y a de la glu, c'est-à-dire que même des gens qui parlent à l'Yeshiva ici pour une semaine, des fois, ils restent bloqués en France 6 mois parce qu'il y a un grand etc. La terre d'Israël, c'est la terre d'Akdoucha, c'est le palais du roi. C'est l'endroit de la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement grand, extrêmement grand. Rabbi Nachman de Breslov avait dit, ça vaut la peine de vendre toute sa fortune pour payer un billet pour venir en Israël, même si on n'est pas certain d'arriver. Tellement c'est grand, tellement c'est grand. Mais, il faut bien savoir, une machlok a été une divergence d'opinion au niveau de l'halakha, est-ce que la mitzvah d'habiter la terre d'Israël est des Rabbanan ou des Oraita? De la Torah ou des Rabbanan? D'où on apprend cela? Il y a, dans la Torah, c'est écrit que vous expulserez les habitants de la terre, on parle il y a 3500 ans, et vous habiterez dans cette terre. Ce vous habiterez dans cette terre, est-ce que c'est une mitzvah d'habiter dans cette terre? Ou c'est simplement, vous aurez une mitzvah d'expulser les habitants de la terre afin d'habiter. Et vous habiterez, c'est afin d'habiter, c'est pas une mitzvah en soi. La mitzvah, elle est expulsée. Comme ça, vous pourrez habiter. Le Ramban, Nachman, il dit non, il y a deux mitzvot. Une d'expulser, une d'habiter. Et vous habiterez, je veux dire, vous habiterez. Le Ramban, Maïmon, il dit non. La mitzvah, elle est, vous expulserez afin d'habiter. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël. Une mitzvah des Rabbanan, très grande, mais des Rabbanan. Maintenant, si quelqu'un vient en Israël, par exemple, il a une situation en France où il peut nourrir sa famille honnêtement, il peut dégager quelques heures par jour pour étudier la Torah, il va venir ici, c'est même pas certain qu'il va s'en sortir financièrement, et même s'il s'en sort, c'est l'esclavage. L'esclavage. C'est 9 heures par jour, on s'en sort pas, il n'y a pas de dimanche, dimanche c'est un jour ouvrable, d'accord, il va venir ici, l'étude de Torah qu'il faisait en France, il ne pourra plus la faire, mieux vaut qu'il reste en France, c'est clair. C'est clair. Mieux vaut qu'il reste en France, absolument. Absolument. Maintenant, quelqu'un qui n'a rien en France, qui est jeune, qui vient ici, qu'est-ce qu'il fait en France? Quel futur il y a en France? Un temps, je disais à long terme, après je disais moyen terme, aujourd'hui à court terme, maintenant il n'y a plus de terme du tout, d'accord?
Les rabbinim disent comme vous, les rabbinim de France, qui pourtant ne veulent pas perdre leur troupeau, ils disent comme vous.
Celui qui peut pas. Encore une fois, tout le monde, il n'y a pas un juif, je crois, normal sur Terre, qui dit qu'il ne faut pas habiter la terre d'Israël. Bien sûr, c'est un mitzvah. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est praticable? Est-ce que c'est réel ou c'est que idéal? Et tant que ça ne devient pas réellement possible, c'est-à-dire que Dieu nous dit non. Dieu nous dit non. Alors comment Dieu nous dit non? C'est pas qu'il met un panneau devant la porte, non, tu viendras pas, d'accord, mais on veut, on peut pas. Quelqu'un qui est bloqué, ses parents, voilà, quelqu'un m'a appelé, voilà, sa mère a 80 ans, elle est malade, elle reçoit les droits en France, ici elle a rien, d'accord. Est-ce que je dois la quitter pour venir en Israël? Et quoi, elle s'est crevée? Jamais de la vie, c'est clair, donc ça veut dire non. Est-ce que Dieu peut dire maintenant, tu seras culpabilisé, tu seras puni parce que tu n'es pas venu en terre d'Israël, quand je m'occupe de ma mère, tu devais la lâcher, c'est inconcevable, c'est inconcevable. Donc tout dépend du cas. Quelqu'un de jeune, il a fait son bac maintenant, il va commencer sa vie. Viens en Israël, tente le coup. Attention. Israël, monter en Israël, ce n'est pas monter que physiquement, c'est surtout monter spirituellement. C'est une terre sainte. C'est pour ça que vous pouvez vendre de l'argent ici, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'endroit où on fait beaucoup d'argent. Par contre, on peut se brancher à Dieu très fort. Celui qui vient en Israël dans cette optique-là, et qui, quand il vient en Israël, dégage plus de temps pour l'étude de Torah, fréquente des bons endroits, il y a des très mauvais endroits. On raconte une histoire qu'une fois un Admor, un grand rabbin de la Chassidout, qui est parti en Israël, il a quitté la Pologne et est parti en Israël. Bon, c'est un grand rabbin, et le dernier soir, il a invité le Tzahara. Il dit voilà, ben, je te quitte. Voilà, tu me signes un papier, je ne t'envoie plus jamais. Le Tzahara dit pas de problème, je te quitte, voilà, je signe, tu ne vas plus jamais, bye bye. Ah, il est tout content. Bon, il arrive en Israël, il descend du bateau sur le quai, il voit la foule qui est recevoir venu le grand Admor, le grand rabbin, toute la foule là, il voit le Tzahara qui lui fait hello, coucou. Elle dit mais je comprends pas, tu m'as promis que tu ne me verrais plus jamais. Non, non, là-bas c'est la succursale, ici c'est le centre. Le centre, d'accord, c'est ici. Là-bas c'est qu'une succursale en Pologne. Il y a du Yetzer Hara ici, très fort. Pourquoi? Parce qu'on est le centre de la Kedusha, le centre de la sainteté, elle est là. Mais autour de la sainteté, il y a toujours la périphérie qui est impure. Chaque fois que vous verrez chaque endroit saint qu'il y a en Israël, autour, il y a de l'impureté qui entoure. C'est extraordinaire, d'accord? C'est vraiment, c'est parce que l'impureté, elle vit de la pureté. Donc elle doit se coller à la pureté pour en prendre un flux. Donc si quelqu'un maintenant vient en Israël et se colle à la pureté, c'est bien. Mais s'il se colle à l'impureté, ce qui est possible, eh ben, reste en France. En France, que tu viens maintenant souiller le palais du roi. Oui, le palais du roi. Rabbi David Abouhasser, le petit-fils de Baba Meir, un des grands rabbins de ce monde, il a dit à nos élèves dernièrement, il a dit, vous à Jérusalem, vous avez Dieu au-dessus de la tête. C'est vraiment ça. Qui ne sent pas quand il vient à Jérusalem, il sent. J'ai une tante qui est hyper anti-religieuse, elle est née à Jérusalem, elle ne supporte plus, elle est partie elle est à Tel Aviv. Elle peut se débaucher tranquille là-bas. Elle ne supporte pas, d'accord? Il y a trop de sainteté. Alors, il y en a qui aiment la sainteté, il y en a qui aiment le contraire. Si on vient maintenant en Israël, un bon Français qui vient, il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Surtout au niveau éducatif, les écoles pour les enfants, il y a toutes sortes d'écoles qui amènent à la fin des trucs complètement tordus, soi-disant religieux, en plus à religieux, soi-disant, et les enfants ils quittent la Torah, et on regarde pourquoi on est venu ici, etc. Et c'est terrible, terrible. Donc Nelia doit se faire une étude très sérieuse, voir si c'est réellement possible. Toujours une part d'inconnu. Ça vaut la peine de prendre un certain risque, mais pas trop gros. Qui pourra définir? Il faut s'asseoir bien voir les pour et les contre, en consulter une personne sage, un grand d'Israël, soit absolument pas même de poser la question, et en fonction de ce qu'il dira, on fera. Oui.
Vous avez dit qu'à l'époque, on avait été chassé de la terre d'Israël parce qu'on se portait mal.
Oui.
C'était collectif, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Hachem, il peut nous chasser de la terre d'Israël si on se porte mal individuellement?
Aussi. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Je l'ai dit, comme il y a beaucoup de Touma ici aussi, de gens qui restent ici. Oui, oui. Ça peut arriver que quelqu'un, à cause de ses péchés, Dieu, je te le mette dehors. Oui, absolument.
Et on pourrait dire que j'impacte Jérusalem, mais aussi Ramon. Moi, c'est la première fois que je viens à Ramon.
Il sent bon, hein? Mais ça sent bon à Ramon. Ouais.
Je suis jamais venu à Ramon.
Ouais.
Si on ne savait pas qu'il y avait des Shiva, est-ce qu'on pourrait faire la pub, dire aux Français, mais ils sont beaux? Bien, c'est lumineux ici.
Ah, c'est lumineux.
Et ça donne envie de venir. Nous, on habite dans une grande ville. On prend une grande ville de lumière.
Vu le panorama qu'on a ici, comme ça, sur Ramallah.
C'est très beau.
Et là, il y a la mosquée en face, c'est la tombe de Shmuel HaNavi. Il faut aller là-bas.
Oui, c'est un de vos élèves
qui
m'a conseillé, il me reste encore.
Allez-y. Allez en journée, il y a une vue imprenable, très très beau. Très beau. C'est un endroit saint, Shmuel HaNavi. Voilà. Il habitait Ramot, marqué dans la Torah, il habitait Ramot, dans la Bible. Ish, Ayab, Ramot, Au début de Shmuel, Ramot, son père Elkana, qui habitait Ramot. Ramot Sophim, voilà. Ramot Sophim, c'est le nom.
Mais Rav, un jour, je crois que c'est vous qui avez ouvert la Gemara Ketubot, et on a vu que Chutz Laaretz, c'est comme si on faisait de l'idolâtrie.
Ouais, c'est vrai. J'ai dit, tout le monde est d'accord qu'il faut habiter Israël, je suis entièrement d'accord, mais quelqu'un, il n'a pas le choix. Dieu nous a chassés de cette terre. C'est-à-dire que Dieu, des fois, il dit non, pas encore. On a été connu, mais il y a des choses à faire. On est en galoute, on est en exil. Il y a une facture d'exil.
Est-ce que c'est une volonté? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, de même qu'on éparpille un petit peu sa richesse, on ne met pas tout dans le même panier. Est-ce que c'est pour nous, ça veut se consoler en se disant que Kadosh Baruch Hu, il y a quand même des juifs pour essayer de ramener d'autres juifs encore, etc.
Certainement. Dieu, il sait ce qu'il fait. Chacun, il y a des gens qui ont des missions là-bas, bien sûr, bien sûr. Je sais que le Rav Steinman, il a dit à beaucoup de rabbins, vous partez en dernier. Vous restez là-bas pour le peuple. Il y a capitaine, besoin, bien sûr. Voilà, absolument. Absolument. Je veux dire quelque chose, la vérité, c'est que nous, on a un peu gâté. Il y a 50 ans, les gens venaient habiter dans des tentes. Oui. Dans des tentes, et qu'ils avaient tout, ils ont quitté le Maroc, la Tunisie, machin, c'est venu. Qu'ils habitaient dans quoi? Dans rien du tout, et tout ça. Et ils crevaient de faim. Ils crevaient presque.
Et ils
disaient
rien.
Ils disaient rien, ils étaient heureux. On est gâtés. Ah, c'est vraiment nous au niveau, on tiendra coup. Alors on vient, mais malgré tout, on tiendra coup. Ok, mais qui tient le coup? C'est pas facile, pas facile, pas facile. La mentalité, elle est difficile aussi, il faut s'habituer.
C'est dépend si on s'isole, si on vient à Ramon.
Voilà, des bons endroits. Des bons endroits. Et après, on apprend aussi à prendre les tordus des religieux aussi. Il y en a aussi des tordus religieux.
Ouais. Mais on les regarde pas, c'est pas grave, on les regarde pas.
Ouais, très bien.
Quelle est la différence entre avoir attaché en Israël et hors d'Israël? Non, mais qu'on ressent ou alors qu'on fait parvenir, c'est pas
C'est écrit dans la Gemara, dans Ketubot, page 111, c'est écrit que Rachel le ramène sur le Humash, que celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il est idolâtre.
C'est Rachel qui raconte ça?
Rachel. C'est une Gemara, dans Ketubot. Tout le monde, c'est une Gemara.
Mais la Bible, il était en France.
Et alors? Et on a été. Vous comprenez pas. Dieu nous a punis. On a été chassés. Raus, dehors de mon palais. Attends, ça veut dire qu'on doit souffrir d'être à l'étranger. Ouais. Et là-bas, t'es pas proche du roi. Oui, c'est vrai. Mais c'est toi qui as voulu cela. Hein? Et non seulement je te mets dehors, mais je mets des Arabes à ta place. Quand on viendra, c'est eux qui vont t'attendre ici avec des fusils. D'accord? Ouais, exactement ça. Et des poignards. Et des bombes.
C'est-à-dire qu'on a un mérite rare aujourd'hui.
Énorme. Énorme.
La Shoah, on a eu un mérite comme ça.
La Shoah, d'abord, en soi, c'est un mérite terrible. Terrible. Maintenant, la Tchouva. Tous ces bons garçons qui viennent, qui ont connu l'enfer, les filles, le truc, la drogue, qui quittent tout, qui font Tchouva. C'est beau. Ça vaut, c'est un très grand mérite. C'est pas facile. Pas facile. Alors pourquoi c'est écrit qu'à l'étranger, on est comme des idolâtres? Parce que j'ai entendu expliquer tout cela, allez, on va tenter le coup. Dieu, il agit dans le monde par le biais de voies de conduite. C'est ça le mazal. Mazal, ça vient de la racine l'isol. L'isol signifie couler. C'est comme des tuyaux par lesquels coule le flux que Dieu amène. Sur l'humanité maintenant. Chacun des peuples a son mazal. Il y a 70 peuples et 70 mazalot. Ce qui est écrit, que chaque peuple, il a son sar, il a son ministre. C'est quoi un ministre? C'est un ange, je veux dire, c'est un conduit, une réalité spirituelle par laquelle le flux qui revient aux nations passe. Amisraël n'a pas de mazal. On n'a pas, dans la réalité naturelle que Dieu a créée, il n'y a pas place pour le peuple Israël. Avraham Avinu regarde dans le ciel, il regarde le mazal, il regarde l'astrologie, il voit qu'il n'y a pas d'enfant. Et il lui dit, Torah, je te mets au-dessus des astres. On est au-dessus du mazal. Am Israël est branché directement avec Dieu, sans aucun ange, sans aucun intermédiaire, sans aucun sar, sans aucun ministre. Il y a Michael, le sar d'Israël, mais ce n'est pas un intermédiaire. Nous, on est branché directement avec Dieu. Bani Matem la Shem Elokim, vous êtes des enfants de Dieu. C'est bien, mais c'est dangereux. Parce que si je suis à mon niveau surnaturel, je pratique la Torah et les mitzvot, je suis vraiment, je me conduis comme un enfant fidèle de Dieu, alors je suis le top, je suis le fils du roi. Mais si maintenant, je ne veux pas être l'enfant de Dieu, parce que c'est contraignant, tu es le prince, tu ne peux pas aller en boîte. Le prince ne peut pas aller en boîte, d'accord? Il va aller maintenant au bord de la plage avec les copains. Ben, moi, t'es le fils du roi, mon cher ami, ça se fait pas. T'es à la piscine privée, d'accord? Chez toi dans le palais, au mikvé, d'accord? Chacun, il a... Quelqu'un, il veut, non, je veux pas être le fils du roi, je veux être comme les autres. Il veut se coller aux autres. Il y a un rejet. On sent ça qu'il y a un rejet. Il dit, t'es pas comme nous, t'es pas comme nous. T'as pas droit à la vie. Regardez, les peuples contestent notre droit à la vie. Tous les peuples ont une terre. On n'a pas de terre, on est né dans le désert. Dieu nous a donné cette terre, il a bien voulu, parce qu'on a mérité, il nous a mis dehors les habitants de cette terre, on a mis à la place. Mais c'est à condition qu'on reste ses enfants. Sinon, t'as pas droit. T'as pas droit à la vie, t'as pas droit à la terre, t'as droit à rien. Tu comprends pas bien, les gens disent, tu manges le pain des Français. J'ai vu une Goebbels, une fois, il parlait, voilà, on en marque, c'est juste, nous mangeons notre pain. C'est le même discours, d'accord? Au Moyen-Âge, le temps des Romains, des Grecs, les nazis, enfin, de tous les temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu veux maintenant recevoir le flux, comme si tu étais dans la nature, dans le naturel. Le flux des 70 nations, t'as pas ta place. Donc si tu te colles, tu viens, tu prends de leur flux maintenant, tu manges le pain des Français. Effectivement, effectivement. Nous, on doit être branché avec Dieu directement. Et là, on reçoit hors du compte. Dans la mesure où on est branché. Maintenant, en Israël, c'est la place où on est branché avec Dieu directement. On reçoit le flux direct. Quand on est à l'étranger, on reçoit le flux par le biais qui nous revient, Dieu veut bien nous donner, ça revient par le biais du ministre, du mazal. Aussi, quand on fait une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on fait un flux qui part de nous vers le haut. Quand on le fait en Israël, ça va directement à Dieu. Quand on le fait à l'étranger, ça va à Dieu, mais ça passe par le ministre qui prend un petit impôt. Qui prend un petit impôt. Ça veut dire qu'on donne un flux de lumière au ministre des autres pays. En cela, on appelait idolâtre. Celui qui habite l'étranger, pourquoi il est idolâtre? Parce qu'il donne, en faisant le mitzvah, il donne un flux. Alors, il ne va pas faire le mitzvah, non, il faut faire le mitzvah. Il y a une partie qui va au côté négatif. C'est forcé. C'est forcé. Dans cette mesure, on appelait que celui qui habite l'étranger, il est appelé idolâtre. Maintenant, Dieu, parce qu'on s'est mal comporté, nous a envoyé là-bas. C'est quoi? On s'est mal comporté. J'ai encore 2 minutes. Dieu a créé un monde où il y a le mal et le bien mélangés. Lorsque l'homme a péché, il a encore fait tomber beaucoup des réalités spirituelles bonnes dans le mal. Et tout est mélangé. Par l'application des mitzvot, par l'étude de la Torah, par, si on ne fait pas cela, par la souffrance, on fait une sélection entre le bien et le mal, on reprend du mal l'étincelle de bien qui est en lui, elle repart en haut et le mal disparaît. Le mal, il a de la puissance tant qu'il a du bien en lui, de la vie en lui, de la divinité en lui. On prend cette source de divinité, le mal disparaît. Comment on fait cela? En faisant Torah Mitzvot. C'est le job du peuple d'Israël jusqu'à l'époque messianique. Quand la dernière étincelle part, on est en époque messianique. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de choses à réparer parce qu'on arrive très très proche de la fin. La Shoah, c'est clair, ça fait partie de tout ce dernier siècle, fait partie des souffrances en faisant du Messie. Parce qu'on arrive à la fin, il faut que tout soit réparé, donc ça, tout va très vite. Et idéalement, Am Israël, habitant la terre d'Israël, avait le pouvoir, depuis Israël, depuis Ramoth, d'accord, depuis Yerushalayim, depuis toute la terre d'Israël, par l'étude de Torah, par l'application des mitzvot, faire en sorte que toutes les étincelles de sainteté qui a éparpillées dans le monde entier repartent vers la sainteté. On avait un aspirateur à longue distance. Mais on l'a bouché. Parce qu'on n'a pas étudié comme il fallait. On a fait des péchés. On s'est mal comporté, etc. À la fin, l'aspirateur à longue distance, on ne pouvait plus aspirer. Donc il a fallu aller sur place. Parce que le peuple d'Israël est parti dans le monde entier. C'est pour ça aussi que le peuple d'Israël est expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Parce qu'on finit, on fait un travail, on va sur place. On va au Maroc, on a fini. Ok, on part en Tunisie, on a fini. Alors, au Liban, on a fini. En Russie, d'accord. Chaque fois, on fait un travail de récolter toutes les étincelles de sainteté qu'il y a, et après, on part. C'est la raison profonde de l'exil. C'est pas que Dieu ne peut être méchant, pan-pan. Il y a un job à faire. Vous n'êtes pas capable de le faire d'ici, parce que vous avez bouché maintenant vos outils qui le permettaient. Il faut aller maintenant sur place. Vu qu'on est proche de la fin, alors on revient maintenant ici, avec les étincelles, tout revient. Ceux qui sont encore bloqués à l'étranger, s'ils ont encore quelques étincelles à ramener de leur tikkun, il y a encore des choses à faire. Tant que Dieu ne dit pas « Ok, maintenant tu viens », ah, ça prouve qu'on ne peut pas encore venir. Alors, Hachem, que bientôt tout le monde revienne.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.